Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h. Rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour et bienvenue pour cette émission de rentrée, en ce qui me concerne, du guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial. Comme chaque année, j'en profite pour vider mon couffin gonflé d'enregistrements réalisés cet été. Cela sera le cas pour les deux premières émissions. Aujourd'hui, ce sont des échos du Festival des Réclusiennes de Sainte-Foy-la-Grande. Le mois prochain, il s'agira d'un autre festival estival, celui du journalisme de couture sur Garonne, où il sera question du conflit en Palestine, avec un entretien croisé entre un Israélien et un Palestinien.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes.
Au programme du jour, donc, un long entretien avec Catherine Vitold-Vanden, l'une des grandes spécialistes d'immigration mondiale, qui fut cet été l'une des invitées majeures du Festival des Réclusiennes. Mais d'abord, un mot ou deux sur ces Réclusiennes. Réclusienne, c'est une référence à un natif de Sainte-Foy-la-Grande, Élisée Reclus, ce géographe libertaire, militant et théoricien anarchiste. Jacques Élisée Reclus, né le 15 mars 1830 à Sainte-Foy-la-Grande, où son père est alors pasteur, au sein d'une fratrie de 14 enfants. Après une jeunesse girondine, c'est à Berlin qu'il suit les cours de géographie du géographe allemand Karl Ritter, un des fondateurs de la géographie moderne. Proche des penseurs anarchistes, Bakounine en particulier, il doit fuir la France lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Il voyage alors à Londres, en Irlande et en Louisiane, puis en Amérique du Sud où il tente une expérience agricole calamiteuse. De retour en France en 1857, il se lie d'amitié avec Blanqui, le socialiste, et surtout avec Proudhon, l'anarchiste. Il rentre alors à la Société de géographie. Mais c'est par l'écriture qu'Élisée Reclus ambitionne d'être géographe en dehors des institutions étatiques, de s'adresser à tous grâce à une langue commune, capable de défendre une vision libertaire du monde, de rendre visible à l'imagination la surface du globe et d'en suggérer la beauté par celle du style. Il publie des récits de voyage, des guides touristiques, participe à des dictionnaires et donne surtout son encyclopédique Nouvelle Géographie. Reclus n'est pas pour autant partisan du droit de propriété intellectuelle. Les plagiats, les emprunts et les traductions sauvages de son œuvre participent à la circulation du savoir avec son approbation arnaco-communiste. Il affirme même que, je cite, « le savant a son immense utilité comme carrier. Il extrait les matériaux, mais ce n'est pas lui qui les emploie, c'est un peuple à l'ensemble des hommes associés qu'il appartient d'élever l'édifice ». Il produit donc une abondante œuvre littéraire et scientifique tout en poursuivant ses activités politiques. Communard, il est membre de la Première Internationale et notamment créateur à Bruxelles de l'Université Nouvelle. Ses ouvrages majeurs sont « L'homme et la terre » et « Géographie universelle ». Il est considéré comme le plus grand géographe de son temps et un précurseur de l'écologie, d'une grande modernité dans son mode de vie anticonformiste. Reclus croyait en l'existence possible d'une société universelle, juste, où chaque individu serait respecté et saurait respecter autrui une fois que les hommes se seraient débarrassés des oppresseurs, des accapareurs, entre autres de l'État, source de puissance et de pouvoir, donc de domination. L'anarchisme, comme l'interprète ici Marc Augeret, le titre c'est « Le triomphe de l'anarchie » écrit en 1901 par Charles Davray.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernements, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Ta pensée invoque ta confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit la pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots a-t-on la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
C'est donc sur ce substrat idéologique que les animateurs des Réclusiennes organisent depuis 2013 ce moment de réflexion autour des thèmes chers à Reclus, le vote, les gardiens de la terre, l'eau, les biens communs, etc. Et cet été, il fut question d'habiter ou plutôt de cohabiter la terre. Et c'est Chantal Crène, ethnologue et animatrice historique des Réclusiennes, avec Marc Sarraoui, qui nous présente cette dernière édition du festival.
Les Réclusiennes, cette année, se sont penchées sur, effectivement, la question de, à la fois de l'immigration et donc des populations qui viennent d'ailleurs et qui s'installent dans des territoires, mais aussi de notre propre manière en Occident d'avoir colonisé d'autres territoires, comme on a pu l'entendre ce matin. Pendant toute la semaine, en fait, il y a plein d'autres thèmes. Hein. Il y a aussi les questions environnementales, notamment une après-midi sur la question de la cohabitation avec les animaux, avec les loups, par exemple. La question aussi de la cohabitation autour de la notion de propriété. Donc la migration de ce matin était un des thèmes parmi d'autres. Et ce matin, donc effectivement, moi j'ai essayé d'introduire cette question-là par rapport à des faits concrets qui se sont passés sur le territoire entre, je dirais, Saint-Émilion, Bergerac et puis le Médoc, où on voit comment des populations viennent travailler, où on les fait venir et se retrouvent dans une situation d'exploitation à la fois, je dirais, au niveau du travail, puisque des personnes travaillent 6 mois et sont payées un seul mois. Sont logés dans des caves coopératives désaffectées et n'ont pas accès à d'autres moyens de circulation que leurs pieds pour aller à l'hôpital. Pour la santé génésique des femmes, par exemple, ça pose un vrai problème. Et donc, on a de plus en plus, en fait, de questions de ce type qui se posent, au point que, je le disais ce matin, la lettre de la Vitisphère de cette semaine rappelle à l'ordre, en quelque sorte, les propriétaires en disant « Vous avez une responsabilité humaine par rapport à ces salariés et il faut absolument que... vos pratiques changent parce que ça fait partie aussi maintenant des questions qui se posent par rapport à la fabrique de la qualité du vin et de la valeur du vin. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on voit que c'est plus difficile à la campagne. Ça l'a été plus facile à un moment donné, mais aujourd'hui, d'exprimer ouvertement son engagement sur ces questions de droits humains des migrants. On voit que le racisme s'exprime et il est décomplexé. Moi, j'ai vu ici, à Sainte-Foy-la-Grande, sur les panneaux, c'était marqué « sale arabe ». C'était là, en animalisant, c'était marqué « la bitabique », les ratons. C'est que du vocabulaire quand même colonial. Et donc, on voit bien aussi comment cette matrice coloniale dont a parlé Christine Chivallon tout à l'heure, elle est aussi présente ici. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'on est aussi des citoyens engagés, chacun finalement de son côté. Peut-être qu'on devrait plus se serrer les coudes pour faire valoir les droits de ces gens, puisque c'est finalement par le droit, en faisant reconnaître la traite humaine, en gagnant au prud'homme, que finalement, on arrive à avoir un effet performatif sur le monde viticole. Mais ça pose des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre économie et plus largement agricole.
Justement, l'affaire dont vous parliez tout à l'heure a été médiatisée et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les syndicats ou la presse spécialisée réagit.
Oui, je pense que la question est à la fois au niveau juridique et à la fois au niveau médiatique, puisque tu le sais, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions et que je dénonce ces situations, mais personne ne m'écoute en fait en tant que chercheur et ça pose la question de la connaissance scientifique et que donc du besoin qu'on a finalement de relais médiatiques ou artistiques pour pouvoir être entendu, d'où les podcasts, les films qu'on fait aujourd'hui, les BD. Je suis en train de faire une BD qui s'appelle « Mes voisins Ahmed et Fatima ». Et j'ai obtenu aussi un financement pour faire des podcasts avec une ancienne de Radio France sur la situation de ces gens-là qui étaient dans la cave coopérative à la Motte-Moravel.
Ça avance un peu quand même.
Voilà, ça avance, oui. Voilà.
Mais avant d'en venir à l'entretien avec Catherine Wittold-Vanden et à ce vaste sujet des migrations mondiales dont elle est l'une des plus fines expertes, encore une dose de musique pour nous mettre dans l'ambiance avec cette chanson de Tikkun Jaffa Coli, la bien nommée « Ouvrez les frontières ».
Thank you. chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. Quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre sort, ni même une goutte de pluie tout au fond du puits. Je vais de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Sable doré, mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on a les mains vides? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Cet entretien s'est déroulé quelques jours seulement après le second tour des législatives qui, vous le savez tous, vit la victoire relative du nouveau Front populaire grâce à une très forte mobilisation pour faire échec au Rassemblement national de la famille Le Pen. Et la suite, vous la connaissez aussi, le refus de Macron de voir la réalité en face et la nomination à qui perd gagne d'un Premier ministre issu du parti qui a le moins de députés, en l'occurrence LR, mais un Premier ministre RN compatible. Bref, le pays a mal à sa démocratie et on peut craindre des jours sombres, en particulier pour les migrants, quelle que soit leur situation. C'est donc autour de ces questions qu'a tourné cette interview, à commencer par les craintes sur le droit d'asile. Une précision encore, cet entretien fut réalisé en commun avec nos amis de la revue Ancrage, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le texte de ces échanges.
Pas nécessairement parce que le droit d'asile est appliqué en vertu non pas de la loi française, mais en vertu d'une convention internationale qui est la Convention de Genève, qui a été signée en 1951. Aujourd'hui, il y a 150 États qui qui sont signataires de la Convention de Genève sur l'asile. Donc on peut restreindre les critères de l'attribution de l'asile, mais on ne peut pas s'émanciper complètement de cette convention internationale. Même des pays, tous les pays européens dans l'acquis communautaire sont participants de toute une série de conventions internationales, dont la Convention de Genève, y compris la Hongrie, qui dit qu'elle l'applique, mais elle est libre de dire qu'aucun ne correspond à la Convention de Genève en termes de persécution ou de crainte fondée de persécution, mais on ne peut pas s'affranchir de la Convention de Genève.
Très bien. Et alors, une question qui pose problème et qui mérite aussi quelques précisions, le droit du sol et droit du sang. Oui. Quelles sont les différences et quels sont les risques qui menacent ce
principe-là ? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque en France parce que c'est une tradition française, si j'ose dire. Il ne faut pas oublier que le droit de l'ancien régime français, depuis François Ier, était fondé sur le droit du sol. C'est-à-dire que le serf, à l'époque, ou l'agriculteur libre, était donc français parce qu'il était né sur le sol d'un système féodal et qui est devenu monarchiste. Et c'était aussi le cas, je le signale pour ce que je vais dire tout à l'heure, du Royaume-Uni et de beaucoup de pays qui avaient ce système d'attachement du paysan au sol du seigneur. Donc, droit du sol. Et les intellectuels, si j'ose dire, des Lumières, ont considéré que le droit du sang, qui était le droit romain de la filiation, était plus émancipateur que le droit du sol qui attachait le paysan, pour la plupart des cas, à la terre. Donc Napoléon Ier, qui a appliqué dans le Code civil un certain nombre d'idées de la Révolution française, a supprimé le droit du sol et a appliqué le droit du sang. Donc 1804, hein, on sort du système monarchiste, si j'ose dire. Et en France, puisque, comme j'ai expliqué, on manquait de population, pour faire des Français avec les étrangers, comme on disait à l'époque, en 1889, on a réintroduit des éléments de droit du sol en disant le droit de la nationalité en France est fondé à la fois sur la filiation, mais aussi sur le droit du sol. Quelqu'un qui est né sur le territoire mais qui a vécu un certain temps, qui est maintenant fixé à 5 ans sur le territoire français avant sa majorité, peut acquérir la nationalité française. Il peut aussi, s'il est majeur, se faire naturaliser, obtenir la nationalité française aussi par mariage. Donc on a introduit des éléments de droit du sol dans le droit du sang français. Et le droit du sol n'a cessé d'avoir plusieurs autres attributs. On a réduit le moment d'accès à l'électorat et à l'éligibilité progressivement dans plusieurs modifications du droit de la nationalité en France en 1927, en 1945, en 1973. On restreint ce droit du sol en disant que par la loi Pasqua en 1993, en disant qu'il faut ne pas avoir été condamné, etc., pour avoir la nationalité française au nom du droit du sol. Mais en 1998, avec la loi Guigou, on est revenu à l'équilibre droit du sol, droit du sang. C'est pourquoi l'extrême droite, avec des idées qui datent de l'Action française, ne cesse de demander l'abolition du droit du sol. C'est un des thèmes phares, si j'ose dire, de l'extrême droite, de dire qu'être français, ça se mérite, qu'il y a des Français de papier, etc. C'est le discours du Club de l'Horloge. Mais pour l'instant, le droit du sol est en équilibre avec le droit du sang, est un des fondements du droit de la nationalité en France. Et la plupart des pays européens, 100 ans après la réforme de 1889 en France, ont, entre 1990 et 2000, établi leur droit de la nationalité en devenant des pays d'immigration, de l'équilibre entre droit du sol et droit du sang. Même l'Allemagne, en 2000, qui était très attachée pour des raisons historiques à la culture allemande, etc., au droit du sang, a introduit plus d'éléments de droit du sol. Le seul pays européen qui n'a pas appliqué le droit du sol, c'est l'Italie, à cause de son attachement sans doute au droit romain, la filiation, mais pour le reste, les pays européens sont en gros des pays d'équilibre droit du sol et droit du sang, donc on régresserait fortement si on supprimait le droit du sol en France.
C'est d'autant plus ridicule d'aborder ce problème du droit du sang que la situation démographique en France incite plutôt à faire un appel de sang neuf et de sang jeune plutôt que l'inverse.
Alors tous les pays d'immigration traditionnelle, d'immigration d'installation, qui étaient d'anciennes colonies britanniques, comme l'Angleterre n'a pas été colonisée par Napoléon, n'a jamais adopté le code civil qui a été appliqué dans tous les pays conquis par Napoléon. Donc le Royaume-Uni est resté un pays de droit du sol. Et le fait que ces colonies, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et beaucoup d'autres, soient devenus des pays indépendants d'immigration d'installation, le fait que ce soit des régimes de droit du sol, ça les a beaucoup aidés à incorporer plus rapidement les nouveaux venus parce qu'ils étaient nés sur le territoire. Donc c'est le cas des États-Unis, pur droit du sol, on est sur le sol américain, on est américain. C'est pareil au Canada, c'est pareil en Australie, c'est pareil dans tous les pays d'Amérique latine qui sont aussi des pays de droit du sol parce que ce sont des pays d'immigration, d'installation. C'est un des éléments qui favorise l'inclusion des nouveaux arrivants dans la citoyenneté.
Alors, à la lumière des derniers événements, je parle des élections, on a vu réapparaître un débat que l'on pensait, auquel on ne pensait même pas d'ailleurs, c'est celui sur les binationaux.
Oui, mais on n'y peut rien, si j'ose dire. Chaque pays a le droit de définir comme il l'entend, en raison de sa souveraineté, le droit de la nationalité. Et je rappelle que tous les pays d'islam et tous les pays asiatiques ont un droit de la nationalité qui est fondé sur la filiation. Donc si des gens qui ont, parce que leurs parents sont de nationalité de pays d'islam ou de pays asiatiques, ont le droit de la filiation, ils sont toute leur vie. D'ailleurs, par exemple, au Maroc, on doit une allégeance perpétuelle à l'État marocain. On ne peut jamais abandonner sa nationalité. Par ailleurs, si ces gens sont nés sur le territoire français, ils peuvent aussi, en fonction du droit du sol, obtenir à la majorité, après 5 ans de vie ininterrompue en France, la nationalité française. Donc, mais nous, on n'a rien à voir, on ne va pas s'occuper du droit de la nationalité d'autres pays, de gens qui auraient par ailleurs la nationalité française. On n'est pas compétent pour ça. Sauf dans des fonctions d'autorité, pour être président de la République, par exemple, je pense qu'on ne peut pas être double national, mais dans des fonctions exceptionnelles, si j'ose dire.
Quel regard portez-vous sur la situation des OQTF, dans la mesure où ces gens-là n'ont pas la possibilité de réintégrer leur pays, qu'ils ne veulent pas les voir revenir
oui,
de toute façon.
Alors, les pays sont souverains pour dire qu'ils ne veulent pas récupérer un certain nombre de personnes, qu'il s'agisse de condamnés d'un côté ou de gens qui sont en situation irrégulière. Et souvent, d'ailleurs, ça crée des conflits avec ces pays. En France, on a un conflit avec le Maroc qui ne répond pas systématiquement aux demandes d'OQTF. En disant que, d'une part, ces personnes ont parfois séjourné sur le territoire marocain, mais ce ne sont pas nécessairement des Marocains. Ils ont beaucoup de subsahariens qui sont concernés par les OQTF, mais aussi des Marocains. Et ils se disent, moi, je n'ai pas nécessairement envie ou pas de récupérer ces personnes. Donc les pays sont complètement souverains pour dire on ne veut pas impunément exporter des gens si le pays où on veut les exporter n'est pas d'accord. Donc ça limite beaucoup l'applicabilité. Aujourd'hui, c'est à peu près de 10% l'applicabilité des OQTF, soit parce que c'est trop cher, soit parce que les pays ne veulent pas récupérer les personnes.
Avec la nouvelle loi sur l'immigration telle qu'elle a été évoquée récemment, est-ce qu'on peut considérer que l'aide médicale d'État est menacée en France ?
J'y ai répondu tout à l'heure. Oui. Je ne pense pas parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des médecins. Pendant les derniers débats qu'on a eus, qui disaient que le fait de ne pas soigner des personnes parce qu'elles seraient en situation irrégulière risque de se faire propager un certain nombre d'épidémies. Donc ouais, c'est un intérêt commun que de traiter médicalement ces personnes le plus tôt possible. Et d'autre part, si on s'intéresse aux individus eux-mêmes, si on fait attendre les gens, non seulement ils sont en risque de mort, mais d'autre part, le traitement risque d'être beaucoup plus coûteux si on intervient plus tard. Donc, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité, l'aide médicale d'État, qui est un rêve de l'extrême droite, a peu de chances d'être appliquée à cause du discours également scientifique qui est donné par le corps médical.
Oui. Pensez-vous que le travail des migrants concernant les sans-papiers et aussi la situation de leurs employeurs, cette situation va peut-être s'améliorer?
Espérons qu'il y aura aussi, disons que le nouveau Front populaire a un impact, s'il est écouté, qu'on aura peut-être une régularisation. Une sorte d'amnistie comme on l'a fait au début en 81 sous Mitterrand, comme on l'a refait en 97 avec Chevènement. Aujourd'hui, on a plutôt une régularisation au fil de l'eau. Il ne faut pas oublier que c'est sous Sarkozy qu'on a fait le plus de régularisation, même si il n'a pas trop déclaré sur tous les toits parce qu'il y avait une pression des mobilisations collectives importantes. Et là, on peut imaginer que peut-être, si on a plus de mobilisation, on aura une régularisation des sans-papiers qui correspondent à des critères qui seront définis par le gouvernement.
Une dernière question, si vous le permettez, sur l'augmentation régulière des budgets de Frontex. Quel regard portez-vous sur cette situation?
Je trouve que c'est aberrant, si j'ose dire, quand on voit déjà le fait que Frontex a fait des pushbacks, c'est-à-dire a repoussé vers des zones qui n'étaient pas la mer territoriale. Un certain nombre de gens qui sont morts. On a eu une série de très importante de morts autour de, je crois, de 600 personnes au large de la Grèce, qui avait donné lieu à la révocation de Monsieur Leggeri, l'ancien directeur général de Frontex. Son budget n'a cessé d'augmenter depuis sa création en 2004. Aujourd'hui, il atteint 875 000 euros. Pour un bilan qui n'a jamais été fait, quelle est l'utilité, parce que les migrations n'ont cessé de croître, y compris les migrations irrégulières, notamment en Méditerranée. Donc, quelle est l'utilité d'un organisme qui est si bien financé et qui donne des résultats qui peuvent être discutés, aussi bien sur le plan des droits de l'homme que sur le plan de son efficacité? Mais je crois que ça rassure tous ceux qui ont peur. Donc on va en rajouter sur le fait que c'est une sorte de symbole du contrôle des frontières. Ceci dit, Frontex s'est quand même vu retirer l'opération de sauvetage, puisqu'on a dit qu'il avait fait défaillance. Donc maintenant, il n'a plus que des drones et des hélicoptères. Il n'a plus de bateaux de sauvetage en mer qui est délégué d'une certaine façon, dans une certaine illégitimité à SOS Méditerranée à travers ces grands bateaux. Ça a été l'Aquarius, l'Océan Viking, etc. Mais l'État ne fait pas nominativement dans ses attributions de sauvetage.
On nage en pleine hypocrisie dans ce
domaine-là. Ah bah oui, c'est juste pour l'opinion publique.
Et puis aussi, on les embête beaucoup, les Aquarius.
Ah oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas vraiment une délégation de compétences. C'est avec une certaine suspicion sur leur légitimité en permanence.
Voilà, puis on les empêche de travailler.
Alors, votre spécialité, c'est les migrations sur le plan global.
Global, mais aussi quand même français, européen, etc.
Vous avez une vision quand même un peu panoramique, si j'ose dire. Et justement, ce n'est pas inutile de rappeler quand même ce que ça représente.
C'est très peu. Voilà, 3,6% de la population mondiale. Donc vraiment, l'invasion, c'est une idée complètement fausse. Et d'ailleurs, si on appliquait complètement cette logique de l'invasion, on devrait être envahi, entre guillemets, par des Asiatiques. Parce que ceux qui sont les plus nombreux sur la planète et qui migrent aussi de façon la plus importante, ce sont les pays d'Asie. On a près de 80 millions de migrants en Asie. Donc c'est le numéro un avec les deux géants que sont la Chine et l'Inde. Mais en proportion de leur population à l'intérieur du pays, c'est assez peu, ces gens qui migrent, comme je disais. Mais il y a quand même 37 millions d'Indiens dans le monde, une cinquantaine de millions de Chinois. Donc c'est quand même des chiffres pas négligeable, sans parler du Pakistan, sans parler de l'Indonésie, qui sont des pays qui ont de gros volumes de migration. Et en fait, à l'échelle de l'Europe, c'est pas ça qui se passe. C'est pas les Asiatiques qui migrent surtout en Asie. C'est une migration très régionale, mais c'est vrai aussi pour l'Afrique. plupart des Africains migrent en Afrique, 26 millions de migrants à l'intérieur du continent africain de la part d'Africains, l'Europe est concernée par le pourtour méditerranéen. La première nationalité en Europe, c'est les Turcs, il ne faut pas l'oublier, 4,5 millions de Turcs en Europe, ensuite les Marocains, ensuite tout le pourtour méditerranéen, mais il ne faut pas oublier la vieille immigration italienne, espagnole, portugaise, qui très longtemps a été la première nationalité en France, par exemple. Donc on est plutôt dans une migration régionalisée, et les réfugiés, c'est surtout le Proche-Orient, donc les Libanais, ensuite on a eu les Irakiens, les Syriens, les Afghans, etc., qui ont surtout migré dans leur région et qui sont pour une petite partie venue en Europe. Donc on est vraiment dans un contexte très régionalisé, en fait.
Alors peut-être un mot encore pour revenir à la période. Comment analysez-vous ce double standard concernant notamment l'accueil des Ukrainiens en France ?
Ben, je pense que c'est des blonds européens chrétiens. Je pense que ça a beaucoup joué. Et puis il y avait quand même le fait que beaucoup de gens considèrent quand même que l'Ukraine, c'est l'Europe. Et qu'il paraît inconcevable qu'un pays européen soit envahi dans la guerre, dans une guerre très violente, parce que l'Europe a considéré qu'elle se construisait sur la paix et que ces gens n'ont rien demandé, ne sont pas entrés dans une attitude belliqueuse vis-à-vis de la Russie, et que c'est la Russie qui est responsable de cette situation. Donc je pense qu'il y a une certaine compassion, si j'ose dire, à l'égard de ces Ukrainiens. Et on leur a donné un statut qui est moins protecteur, quand même, il faut le rappeler, que le droit d'asile de la Convention de Genève, parce qu'il ne donne pas un statut permanent avec un titre de séjour de 10 ans automatiquement renouvelable, sauf que c'est difficile d'obtenir le droit d'asile. Avec la protection temporaire, ils ont tout de suite eu accès à tous les droits, c'est-à-dire les fameuses prestations sociales, école, enfin l'école, tout le monde y a droit, mais les prestations médicales, le droit au logement, le droit au travail, etc., que les autres n'ont pas. Il y a eu un accueil citoyen important d'Ukrainiens chez eux, qu'on a peu vu pour les Syriens ou autres proche-orientaux. Mais ils ont un titre provisoire, donc ils doivent renouveler leur statut, qui d'ailleurs pour l'instant n'est maintenu qu'en 2025. Après, on ne sait pas si la protection temporaire pour les Ukrainiens va être renouvelée. En France, on a reçu peu de monde. C'est la Pologne qui a reçu l'essentiel de ces gens.
Une espèce de migration de proximité.
Complètement.
Juste pour finir, peut-être, vous avez le sentiment qu'on est passé
De très très près de la catastrophe.
Notamment
en termes de migration. Donc le droit de la nationalité était quand même très menacé. L'accès à l'aide médicale d'État aussi. Le statut du musée de l'immigration éventuellement aussi. Et toute une série de la préférence nationale. Imaginons la préférence nationale dans les banlieues. Il y aurait des mobilisations permanentes pour l'accès à l'emploi, l'accès au logement, toute une série de situations, complètement irrationnelles pour des gens qui ont toujours vécu sur notre territoire. Donc, ça ne veut pas dire que, la situation soit complètement apaisée. Mais je salue le courage des nationaux qui se sont mobilisés pour faire barrage à l'extrême droite. Oui. Moi, j'étais très inquiète.
Nous aussi.
est-ce que je peux juste terminer ? Parce que j'aimerais avoir votre regard sur la loi qui va imposer, alors je ne sais pas où on en est, peut-être vous le savez, le juge unique à la CNDA.
Ah oui. À mon avis, c'est plutôt à une régression du droit d'asile. Sauf que tous ne seront pas analysés de cette façon. Ça concerne une partie seulement des demandeurs d'asile qui auront un juge unique. Et pour les autres, on va rester pour l'instant avec le système, collégial que l'on a. Pour l'instant. Hein.
D'accord. Parce que justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une juge.
J'ai discuté avec des gens de la CNDA qui disent pour l'instant, le système collégial. Mais bien sûr, l'objectif, pour gagner du temps et pour gagner de l'argent, on va mettre un juge unique, ce qui est très dangereux parce qu'une personne seule, qui va débattre de la vie de personnes qui sont très fortement menacé. Ça dépend un peu de sa mentalité, entre guillemets, sans parler de son orientation politique. Mais ça peut être extrêmement dommageable pour la protection du droit d'asile, pour moi.
Parce que ça voudrait dire qu'on supprime le juge CHRS.
Oui, oui. Ah, oui, bien sûr. Ouais.
Et avec la dématérialisation. Aussi,
oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est
donc
déjà
ça
le cas.
Multiplie.
C'est déjà le cas, parce que pour des jeunes qui n'ont qu'un seul portable comme instrument pour débattre avec l'administration, souvent, ils ont des interlocuteurs qui ne répondent pas. On leur demande des papiers qu'ils n'ont pas sur place puisqu'ils n'ont que leur portable, etc., dont les actes de naissance des parents, ou etc. Et donc, c'est très, très difficile de se débrouiller comme ça, hein, ça, c'est clair. Mais c'est pour faire des économies de guichet.
Bien sûr.
Et pour avoir moins de conflits au guichet aussi.
Merci, merci beaucoup. Beaucoup.
Là, écoutez,
merci beaucoup,
Catherine. Merci.
Merci, je suis ravie de vous retrouver ici.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Voici une rapide bibliographie de nos deux interlocutrices. Parmi les dizaines d'ouvrages de la prolifique Catherine Vitold de Vanden, citons son incontournable Atlas des migrations chez Autrement, Idées reçues sur l'immigration chez l'Harmattan et Figure de l'autre, perception du migrant en France 1870-2022 et pour finir, La question migratoire aux presses de Sciences Po. Chantal Crène, anthropologue girondine rattachée à l'Université de Montpellier, a publié Ronde des mondes, migration et aliments entre Afrique et Europe chez Cartala en 2021. Elle a publié aussi Entre Tananarive et Bordeaux, la migration malgache en France. C'est sa thèse de l'ESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Maintenant, une nouvelle pause musicale, toujours dans le thème, avec ce Gibraltar d'Abdel Malik.
Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir de la vie, devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y'a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar, vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
L'actualité, c'est la sortie dans quelques jours du numéro 90 de la revue Ancrage, Mémoire des métissages du Sud-Ouest, avec quatre sujets à la une. À la Réole, en Gironde, c'est une carte gourmande et solidaire que nous propose Gérard Blot, nouveau bienvenu dans l'équipe de la revue. Depuis 2014, ce métissage culturel et social s'affiche à l'enseigne de l'association Cuisine et Partage. Entre cajots de légumes et sauces piquantes, il nous compte les savoureuses soupes du monde. Dans les fourneaux réolés se mitonnent des recettes marocaines, vénézuéliennes, thaïlandaises, sri-lankaises, portugaises, espagnoles, ukrainiennes, italiennes parmi d'autres. Une table de tous les parfums, que rêver de mieux pour tisser du lien. Deuxième titre, c'est aussi la triste odyssée d'un esprit libre, celle de Hassan Makarémi, que Simon Loignon a rencontré en Dordogne, département d'accueil de l'Iranien. Ingénieur, calligraphe, peintre, psychanalyste, cet expert en stratégie a échappé au régime des ayatollahs en passant par les hautes montagnes du Kurdistan à la frontière irako-iranienne. Exil encore, celui d'Antonio Royas Garcia, ce fils de républicain espagnol qui n'a jamais levé les bras devant Franco, a-t-il confié à Pascal Millet. Antonio a franchi les Pyrénées clandestinement en 1950 et a consacré sa vie de militant à défendre les pauvres et les travailleurs. 20 ans après son départ à la retraite, le syndicaliste continuait à ferrailler au prud'homme pour soutenir les salariés. Aujourd'hui, Antonio Rojas Garcia coule des jours paisibles à La Parra dans le Tégaronne où il s'est installé en 2022. Et toujours à la une, les notes du dernier voyage de notre amie Françoise Escarpite au Mexique et à Cuba. Correspondante de presse, infatigable reporter qui parcourt les pays d'Amérique du Sud depuis de nombreuses années. Notre consoeur s'est rendue au Mexique, qui pour la première fois dans l'histoire du pays, vient de porter à la présidence une femme, Claudia Sheinbaum. Et peut-être mieux encore, une chef d'État déterminée à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Puis retour par Cuba, toujours pénalisé par les sanctions héritées de l'administration Trump. Les Cubains s'exilent en masse, les terres nourricières manquent de bras. Mais encore, pas à la une, un dossier de Joël Combre sur le camp de Gurs pour un hommage à ceux qui œuvrent depuis le début des années 60 pour défricher ce camp des Pyrénées-Atlantiques où furent détenues 60 000 personnes et déportées en 6 convois près de 4 000 juifs. Et sans oublier un entretien avec Marfal, le plus bordelais des sociologues sénégalais, à propos de la publication de son dernier ouvrage, « L'universalisme républicain ». Et enfin, je me répète, l'entretien que vous venez d'écouter avec Madame Witolde van den. Donc, Ancrage, en vente dans les bonnes librairies, dans quelques jours et par abonnement, sur le site de la revue ancrage.org. Nous publions aussi très bientôt les actes du colloque que nous avions organisé lors de la sortie du hors-série sur l'Algérie. Ils contiennent notamment l'intervention du politiste Olivier Lecourt-Grandmaison, toujours radical et passionnant. Et pour introduire les quelques brèves, et parce que nous avons encore du temps, je vous propose d'écouter cette version en persan de la chanson révolutionnaire du début du siècle dernier en Italie, le fameux Bella Ciao. Adieu ma belle, de celui qui part se battre contre la tyrannie, ce chant repris par tous les révolutionnaires de la planète et donc aujourd'hui par les femmes iraniennes. Ici, c'est Yasgin Kiani qui l'interprète magnifiquement.
یه شب مهتاب یه یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه، از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا.
Un très beau moment qui appelle cette invitation un peu tardive, puisque c'est tout à l'heure à 18h30 à la médiathèque Mistral d'Artigues, où les amis du monde diplomatique organisent une rencontre publique sur le thème « Iran, où en est le combat des femmes iraniennes ?» avec Mehrnaz Behzad, féministe intersectionnelle, conseillère pédagogique et juriste, intervenant notamment à l'école de la magistrature. À noter toujours en bref la publication en octobre du tome 4 de Pitcairn, en BD chez Glénat, sur un scénario de Sébastien Laurier, avec au dessin Gyula Nemeth. C'est donc le dernier volet de la tétralogie adaptée du livre de Sébastien Laurier, La Bounty. Nous avions reçu l'an passé Sébastien Laurier dans cette émission. Prochaine émission, mercredi prochain donc, avec Martine Bertrand, Paul et Sarah. L'emprise dans le couple, à partir du livre intitulé « En vérité Alice » de Tiffany Tavernier, l'emprise d'un homme sur une femme, la violence physique et psychique. Dans la rubrique ciné, Paul parlera du film de Mati Diop, « Dahomey », et Sarah tiendra sa rubrique « Art plastique ». Quant à la parole au libraire, elle sera donnée à la librairie Le Pasteur à Bordeaux-Bastide. Voilà, puisque cette émission s'achève, mais comme je vois qu'il nous reste un peu de temps, je me permets une nouvelle auto-promo à propos de la sortie du deuxième CD des Goualeurs de Paludate, un groupe vocal et musical où j'assure une voix de basse. 13 titres, quasiment tous originaux, composés, paroles et musique par notre leader Maximo, Daniel Fontiche. Exemple avec ce Vasira de Barro, qui est en fait l'adaptation d'une sorte de requiem venu de l'Équateur, où il est question d'un pot de terre où l'auteur demande à être enterré comme le furent ses ancêtres. Vasira de Barro par les Goualeurs de Paludate, extrait de notre dernier CD.
Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Thank you.
Jacosita y tu
casilla
al mar de verdes collados.
Arcilla cocida y tu
casilla
al mar de verdes collados.
Barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
Barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
De dinastía antiguo,
vasija, vaso de barro.
De dinastía antiguo,
vasija, vaso de barro.
Con mi muerte
yazgo en ti,
en tu polvo enamorado.
Con mi muerte yazgo en ti,
yazgo en ti,
en tu polvo enamorado.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años,
cuando la vida se pierda tras una cortina de años,
vivirán a flor de tiempo
amores y desengaños.
Vivirán a flor de tiempo
amores y desengaños.
Vasija de barro,
vasija de barro,
vasija de barro.
Voilà, cette émission s'achève maintenant vraiment. On se retrouve dans un mois pour parler Palestine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusion le dimanche à 18h, et quand vous voulez en podcast.